Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, de nouveau pour continuer notre petit cours d'iconologie orthodoxe dans le cadre de notre institut Stanelloé. Alors, si j'ai bonne mémoire, les premiers soirée dédiée à une sorte d'introduction dans la matière. Et aujourd'hui, nous allons aborder de façon peut-être plus concrète les tout débuts de cet art chrétien. Et je vais essayer de vous montrer comment et pourquoi on peut considérer que cet art chrétien, cet art, comme nous verrons, ecclésial, ces images tout à fait neuves dans le monde de cette époque, autrement dit, l'ère, le début de notre ère, c'est-à-dire les trois premier siècle, premier, deuxième, troisième siècle, puis on verra plus loin pour le quatrième. Alors, la grande majorité des monuments de l'art sacré des premiers siècles, surtout dans la partie orientale de la chrétienté, ont été détruits par les iconoclastes. Nous allons voir plus tard qui sont ces gens. Iconoclaste veut dire briseur d'images. Donc, et c'est briseur des images sont intervenus dès le premier siècle dans l'histoire de l'Église parce que, pour des raisons que nous allons voir en détail, ces gens-là pensaient évidemment à tort, que dans le christianisme, il n'y a pas, le christianisme authentique, comme il pensait, il n'y a pas de place pour l'image. Et comme nous verrons aussi, l'argument, le plus sérieux d'après eux, était évidemment l'interdiction des images dans l'Ancien Testament. Mais nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Alors, la grande majorité des monuments de l'art sacré des premiers siècles, surtout dans la partie orientale de la chrétienté, ont été détruits par les iconoclastes. Les iconoclastes, voilà, donc cette secte qui était contre les images, les briseurs des images, et plus tard par les croisés latins ou simplement par le temps. Restent surtout les fresques des catacombes, en particulier à Rome, mais pas seulement à Rome, mais les plus célèbres, évidemment, se trouvent à Rome. Nous ne savons donc pas comment étaient les premières icônes, ou images, ou portraits du Christ et de la Mère de Dieu. Mais le peu qui nous reste de l'art chrétien primitif nous laisse supposer qu'il ne s'agissait pas de portraits purement naturalistes. On entend souvent dire que, évidemment, ça pouvait être que naturaliste parce que l'art de la basse antiquité, l'art de l'hellénisme, l'art romain, introduit ce qu'on pourrait appeler un naturalisme physiologique même, n'est-ce pas, dans les images du corps humain et avant tout, évidemment, du visage humain. Alors, nous ne savons donc pas comment étaient les premières images du Christ et de la Vierge. Je ne sais pas si on peut déjà parler premières images d'icônes, parce que nous allons voir que l'icône est déjà le fruit d'une réflexion ecclésiale sur la spécificité de l'art chrétien et sa place dans la vie de l'Église et plus particulièrement, évidemment, dans la liturgie. Mais le peu qui nous reste de l'art chrétien primitif nous laisse supposer qu'il ne s'agissait pas de portraits purement naturalistes. Donc ce n'était pas des photographes, des photographies, mais bien d'une réalité toute nouvelle et spécifiquement chrétienne. C'est ça qu'il faut surtout, comprendre, que c'était le contraire d'une sécularisation. C'était la création graduelle d'une authentique tradition sacrée. Et c'est ça qui fait, c'est ça la raison pourquoi les orthodoxes sont tellement intraitables sur cette question des images sacrées qu'ils appellent icônes, parce que c'est des images tout à fait particulières. Et nous allons voir pourquoi. Donc, on se rend compte que ces premières images chrétiennes nous font déjà entrevoir qu'il ne s'agissait plus d'images, de portraits même purement naturalistes, mais bien d'une réalité toute nouvelle. C'est ça qui compte. Une réalité toute nouvelle parce que l'Église est une réalité nouvelle. Imaginez dans le monde antique, en plein empire romain, avec tout ce que ça véhiculait comme paganisme, comme errement religieux et philosophique, il y a tout d'un coup un art qui va se distinguer, qui sera différent à la fois des arts religieux païen antique et de l'art de cet humanisme du bas empire qui finalement avait essayé de remplir une fonction, on pourrait dire religieuse, je ne dis pas sacrée, mais religieuse, mais qui a échoué. Parce qu'il n'avait pas trouvé une façon de représenter, comment dirais-je, le modus vivendi de ceux qui appartenaient à cette nouvelle religion, à cette nouvelle croix, à nouvelle foi en Jésus-Christ. Lien en bien des points à l'Antiquité, écrivait Lazarev. Lazarev est un byzantinologue de l'époque, tout de suite après la deuxième guerre mondiale, qui était courageux et qui, encore à l'époque de Staline, a commencé à écrire sur l'art chrétien byzantin, encore en pleine période staliniste. Donc, Victor Lazarev écrivait que surtout des formes tardives spiritualisées qui étaient développées dans le cadre de cet art, dès les tout premiers siècles de son existence, s'opposent toute une série de tâches nouvelles. L'art chrétien est loin d'être une antiquité chrétienne, comme le pensent certains écrivains, surtout, disons, protestants. Les sujets nouveaux de l'art chrétien primitif n'étaient pas un fait purement extérieur. Ils reflétaient une attitude nouvelle, une religion nouvelle, une compréhension foncièrement différente de la réalité, même de ce monde-ci. Ces sujets ne pouvaient s'accommoder Ce sujet ne pouvait s'accommoder des formes anciennes propres à l'Antiquité. Ils exigeaient un style qui puisse incarner au mieux les idéaux chrétiens Et tous les efforts des artistes chrétiens tendaient à élaborer ce style, ce nouveau style, en s'appuyant sur les recherches d'autres savants. Viktor Nikitch Lazarev souligne que dans les peintures des catacombes, nous savons tous que c'est les catacombes, c'est les cimetières souterrains à Rome et à Naples, et d'autres, à Alexandrie, dans d'autres villes aussi de la basse antiquité. Et donc, c'était des cimetières, et il y avait des cimetières qui, peu à peu, étaient devenus de facto des cimetières avant tout chrétiens. Et c'est dans ces catacombes, ces cimetières souterrains souvent, que les artistes chrétiens ont fait les premiers pas dans l'invention de ce nouvel art. Pour exprimer son enseignement, l'Église primitive se sert également de symboles païens et de certains sujets de la mythologie gréco-romaine. Nous allons voir comment. Elle se sert aussi des formes de l'art antique, grec et romain, les emplit d'un contenu nouveau, et ce contenu nouveau modifie les formes mêmes qui l'expriment. Autrement dit, comme la création humaine dans son ensemble, la formation de l'image chrétienne est à présent déterminée par le renversement que le christianisme a apporté dans le monde. Avec l'apparition de l'homme nouveau, l'homme chrétien, apparaît aussi une image nouvelle qui lui correspond. Le christianisme crée son propre style de vie, sa propre vision du monde, son propre style dans l'art. Évidemment aussi, parce que le contenu est nouveau. Et pour exprimer ce contenu nouveau, eh bien, ma foi, il faut trouver des formes nouvelles. Autrement dit, donc, le nouveau art et les nouvelles formes de l'art, nouveau par rapport à l'Antiquité grecque et romaine, emplit ces formes de l'art d'un contenu nouveau, et ce contenu nouveau modifie les formes mêmes qu'il exprime. Autrement dit, la création humaine dans son ensemble, la formation de l'image chrétienne, est à présent déterminée par le renversement que le christianisme a apporté dans le monde. Il faut bien comprendre que c'était évidemment et véritablement un renversement. S'il y a eu des persécutions de chrétiens, et nous savons qu'ils étaient féroces, c'est parce que le seul fait de l'existence de ces communautés chrétiennes mettait en cause le sens et le but de la vie païenne, tout simplement. Et non content de mettre formellement ces réalités en question, les chrétiens proposaient de nouvelles perspectives. Et dans le cadre de ces nouvelles perspectives, eh bien, ils ont aussi cherché d'exprimer ces réalités nouvelles dans cet art qui sera dorénavant l'art de l'Église. Autrement dit, comme la création humaine dans son ensemble, la formation de l'image chrétienne est à présent déterminée par le renversement, je dis bien renversement, que le christianisme a apporté dans le monde. Avec l'apparition de l'homme nouveau, apparaît aussi une image nouvelle, qui correspondant à cet homme nouveau. Le christianisme créer son propre style de vie, et non seulement de vie, mais sa propre vision du monde, son propre style dans l'art. Enfin, style, c'est peut-être un peu faible, je dirais, un nouveau langage de l'art, un langage de l'art chrétien. Face à la conception du monde de l'Antiquité et l'expression picturale qui l'a traduit, apparaît une autre conception de l'art, une nouvelle vision artistique qui rompt avec la vision du monde sur laquelle était fondé l'art de l'Antiquité, qui était évidemment profondément païen. Cette rupture décisive est provoquée par la vie elle-même, par la nécessité d'assimiler la révélation reçue et de l'opposer aux hérésies qui tronquent cette révélation dans sa plénitude. L'art des catacombes est surtout un art enseignant la foi. C'est un art didactique, on pourrait dire. La plupart de ces sujets, tant symboliques que directs, correspondent aux textes sacrés, ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, textes liturgiques et même patristiques. Parallèlement aux représentants directs assez nombreux, le langage des symboles était très répandu et jouait un grand rôle dans l'Église au premier siècle. Alors, ce qu'on peut appeler des images directes, on peut en donner les exemples les plus répandus. Dès le premier et second siècle, toute une série de thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament commence à être représentés. Au premier siècle, ce sont le fameux bon pasteur, une image du Christ, bien sûr. Noé dans l'arche, l'image du salut. Daniel dans la fosse au lion, exactement aussi l'image du salut. Et la scène du banquet. Du deuxième siècle, nous avons de nombreuses images du Nouveau Testament, qui sont entre-temps évidemment devenues des fêtes liturgiques, comme l'Annonciation, la Nativité du Christ, son baptême et beaucoup d'autres sujets. Les peintures des catacombes, les peintures des catacombes traitent fréquemment des thèmes inspirés de l'évangile de Saint Jean. La résurrection de Lazare, 53 fois dans les catacombes de Rome. La guérison du paralytique, 20 fois, etc. Certaines seraient de la seconde moitié du deuxième siècle. Alors, donc, tout cela montre la nouveauté des sujets et aussi la nouveauté, comme nous verrons, du traitement de ces sujets. Le langage symbolique impliqué dans ces images s'explique d'abord par la nécessité d'exprimer par l'art une réalité qui ne peut l'être autrement ou qui ne peut pas être exprimée directement. D'autre part, cacher aux catéchumènes jusqu'à un certain moment les sacrements chrétiens D'autre part, cacher aux catéchumènes jusqu'à un certain moment de leur éducation chrétienne, les sacrements chrétiens essentiels étaient une règle établie par les pères et fondée sur la Sainte Écriture. Saint Cyrille de Jérusalem, au IVe siècle, explique à quelle expression symbolique il faut recourir en enseignant les chrétiens. Car, je cite, « il est permis à tous d'entendre l'Évangile, mais la gloire de la bonne nouvelle n'appartient qu'aux proches du Christ », dit saint Cyrille. C'est pourquoi le Seigneur employait des paraboles en parlant à ceux qui étaient incapables d'entendre et expliquait ces paraboles à ses disciples lorsqu'ils étaient seuls. Car, continue saint Cyrille, ce qui pour les éclairer est la splendeur de la gloire, aveugle les incroyants. On n'expose pas à un païen l'enseignement mystérieux sur le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et même aux catéchumènes, nous ne parlons pas clairement des mystères, mais nous nous exprimons sur beaucoup de choses d'une façon, on pourrait dire, voilée, comme dans les paraboles, afin que les fidèles qui savent comprennent et que ceux qui n'y savent pas encore ne souffrent pas de dommages. » Fin de citation. Ainsi, le sens des symboles chrétiens était révélé aux catéchumènes progressivement, au fur et à mesure de leur préparation au baptême. D'autre part, les rapports entre les chrétiens et le monde extérieur exigeaient également une sorte de langage chiffré. Il n'était pas de l'intérêt des chrétiens de divulguer au monde extérieur païen et hostile les mystères sacrés. Les premiers chrétiens employaient avant tout des symboles bibliques, l'agneau, l'arche, etc. Mais aux païens qui entraient dans l'Église, ces symboles ne suffisaient pas et étaient souvent incompréhensibles. Alors l'Église adopta, pour les rapprocher de la vérité, certains symboles païens susceptibles de transmettre divers aspects de son enseignement. Ces symboles, l'Église les redressait, les purifiait, retrouvait leur signification première, adultérée par une longue dégénérescence, et s'en servait pour exprimer le salut accompli dans l'incarnation. Ainsi, afin de mieux connaître son enseignement à ceux qui se convertissaient du paganisme, l'Église utilisait certains mythes antiques qui, dans une certaine mesure, servaient de parallèle au christianisme. Nous nous bornerons à quelques exemples qui nous aideront à comprendre la destination de cet art, son sens et son contenu, et par là, la destination et le sens de l'art de l'Église en général. À côté de rares images directes du Christ, il faut dire qu'au début, ils n'étaient pas tellement fréquents, mais donc, à côté des rares images directes du Christ, nous trouvons en ce qui le concerne, le Christ, une foule de représentations symboliques, soit peintes dans les catacombes, soit sculptées en bas ou au relief sur des sarcophages. Au premier rang de celles qui utilisent la forme humaine, nous trouvons le type du bon pasteur apparu dès le premier siècle. Nous en avons ainsi plusieurs représentations dans la catacombe romaine de Domitille. Cette image est étroitement liée à celle de l'agneau qui s'appuie sur des textes bibliques. Par exemple, le prophète Ézéchiel, chapitre 34, et David, psaume 22, figurent le monde comme une bergerie dont le pasteur est Dieu. Et le Christ, parlant de lui-même, reprend cette image biblique. « Je suis le bon pasteur, dit-il, de lui-même. Je suis le bon pasteur, dit-il. » Le christianisme adopte ce type iconographique et lui donne un sens dogmatique précis. Le bon pasteur Dieu incarné prend sur lui la brebis perdue, c'est-à-dire la nature humaine déchue, l'humanité qu'il unit à sa gloire divine. Dans cette scène, c'est l'action du Christ qui s'explique et non son aspect historique. On ne peut en aucun cas la rapprocher de l'image du Christ adolescent ou appelé quelquefois Emmanuel. C'est à la mythologie antique qu'est empruntée une autre image symbolique du Christ. La représentation plutôt rare de notre Seigneur sous les traits d'Orphée, avec une lyre à la main, entourée d'animaux. Ce symbole est aussi largement utilisé dans les écrits des auteurs antiques, en commençant par Clément d'Alexandrie, donc des auteurs chrétiens, hein, Clément d'Alexandrie. Comme Orphée, dompté par salir les bêtes féroces et charmer les montagnes et les arbres, de même le Christ attirait les hommes par sa parole divine et dompter les forces de la nature. Même les sujets qui, à prima vista, semblaient de simples décorations, ont souvent un sens caché, comme la vigne qui se rencontre très souvent dans l'art des premiers siècles. C'est là manifestement une transposition visible des paroles du Christ, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, il ne demeure attaché. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4, 5. Ces paroles et cette image ont un sens tant ecclésiologique que sacramentel. Lorsqu'on représente le cep et les sarments de la vigne, il s'agit du Christ et de son Église. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Mais le plus souvent, l'image de la vigne est complétée par celle de la vendange, ou bien par celle des oiseaux se nourrissant de raisins. Dans ces cas, la vigne rappelle surtout aux chrétiens le sacrement central de l'Église, l'Eucharistie. La vigne donne le vin comme le Verbe a donné son sang, dit Clément d'Alexandrie. La vigne donne le vin comme le Verbe a donné son sang. Les hommes qui vont d'ange et les oiseaux qui se nourrissent représentent les chrétiens, se nourrissant de la chair et du sang du Christ. Dans l'Ancien Testament, la vigne fut aussi le symbole de la terre promise, comme l'indique la grappe rapportée à Moïse du pays de Canaan. Dans le Nouveau Testament, elle est par conséquent aussi le symbole du paradis, terre promise à ceux qui communient au corps et au sang du Christ, c'est-à-dire aux membres de l'Église. Le sujet décoratif de la vigne existe toujours dans l'art sacré de l'Église orthodoxe, avec le même sens symbolique. L'un des symboles les plus répandus au premier siècle chrétien était, comme on le sait, le poisson. Le rôle si important que joue le poisson dans les récits de l'Évangile a certainement contribué à faire adopter ce symbole par les chrétiens. Le Christ lui-même s'en servait. S'adressant à des pêcheurs, il recourait naturellement à des images qui leur étaient proches et compréhensibles. Et en les appelant à l'apostolat, il les nommait pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 19, Marc 1, 17. Le royaume céleste est comparé par lui à un filet rempli de toutes sortes de poissons. L'image du poisson sert également de ce symbole des biens célestes. Les images du pêcheur et du poisson exprimant le prédicateur et le converti sont tout à fait compréhensibles. Mais la large diffusion du symbole du poisson dans le christianisme avait aussi d'autres raisons. C'est le sens mystérieux des cinq lettres composant le mot « ichthys » qui en fut la principale. Cette image figure partout, dans les peintures murales, sur les sarcophages, dans les inscriptions funéraires, et sur des objets divers. Les chrétiens portaient au cou de petits poissons en métal, en pierre ou en nacre, avec l'inscription « Que tu sauves » ou « Sauve ».
À l'extraordinaire extension de l'image graphique du poisson correspond une utilisation littéraire non moins frappante. Dans les inscriptions funéraires, comme chez beaucoup d'auteurs chrétiens. Toutefois, la valeur de ce symbole semblait si considérable aux chrétiens des premiers siècles qu'ils cachèrent sa signification plus longtemps que celle des autres symboles, au point que jusqu'au IVe siècle, aucun auteur n'en donne une explication complète, autant qu'on peut en juger par les documents que nous connaissons. La signification première et essentielle du poisson, c'est donc le Christ lui-même. Certains auteurs antiques appellent parfois notre Seigneur poisson céleste, Ichthys Uraninos, Ichthys Uranias. Nous rencontrons l'image d'un bateau, symbole de l'Église, porté par un poisson. L'Église repose sur le Christ, son fondateur. Lorsqu'il s'agit de représenter le Christ au milieu des chrétiens réunis à lui par le baptême, on représente de petits poissons entourant un plus grand. Nous sommes de petits poissons, dit Tertullien. Nous naissons dans l'eau comme notre poisson, Ichthys, Jésus-Christ. Et nous ne sommes sauvés qu'en restant dans l'eau. Ainsi, le symbolisme du poisson renvoie à celui de l'eau, c'est-à-dire au baptême. Ce qui est particulièrement souligné dans les représentations et dans les écrits qui utilisent l'image du poisson, c'est la signification eucharistique de ce symbole. En effet, chaque fois que l'Eucharistie est représentée, que ce soit l'image d'un banquet, d'une scène de consécration ou un simple symbole, le poisson y figure immanquablement. Le fait est là, et pourtant, le poisson n'a jamais été employé comme espèce eucharistique. Il ne faut pas mélanger les genres. N'a jamais été espèce eucharistique. Il précise seulement le sens du pain et du vin. Particulièrement caractéristiques sont deux inscriptions funéraires trouvées à deux extrémités du monde chrétien, en Phrygie et en Gaule, et datant toutes les deux du second siècle. La première est de Saint Avercius, Abercius en français, évêque de Hierapolis, vénéré par l'Église comme égal aux apôtres, iso apostolos. Cette inscription reproduit un texte écrit par le Saint lui-même. Grand voyageur, il séjourna à Rome et sillonna tout l'Orient. La foi me conduisait partout, écrit-il, et partout elle m'a servi en nourriture un poisson de source très grande, pur, pêché par une Vierge sainte. Elle le donnait sans cesse à manger aux amis. Elle possède un vin délicieux qu'elle donne mêlé d'eau avec le pain. Le poisson pêche la Vierge sainte et le Christ. Le pain et le vin mêlés d'eau, c'est déjà notre pratique eucharistique. L'autre inscription funéraire trouvée en France est celle de Pectorius d'Autun, la ville d'Autun. C'est un poème acrostiche en grec dont les lettres initiales forment le mot Ichthys Elpis. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, Espérance, Elpis. Dans les flots éternels de la sagesse qui donne des trésors, dans les eaux divines qui rajeunissent l'âme, la race divine du poisson céleste reçoit la vie éternelle. Le poème invite ensuite à prendre l'aliment doux comme le miel du Seigneur, dessin et à manger l'Ichthys que tout tient dans les paumes de tes mains. Saint Abercius, Abercius avait rencontré partout, de Rome à l'Euphrate, non seulement la même doctrine et le même sacrement, mais aussi la même image, le même symbole où convergent rite et doctrine, le poisson. L'inscription de Pictorius parle de la même réalité à l'autre bout du monde chrétien. Ainsi, ces deux documents nous montrent que le symbole du poisson était répandu partout et propre à l'Église tout entière. Un autre symbole du Christ extrêmement répandu dans cette époque des catacombes est celui de l'agneau qui apparaît dès la fin du 1er siècle. Notons seulement ici que, à l'occasion de sa suppression au 7e siècle, donc un autre symbole du Christ extrêmement répandu dans les catacombes est celui de l'agneau qui y apparaît dès le 1er siècle. Nous devrons plus tard y revenir à l'occasion de sa suppression au 7e siècle. Ce sera le Concile in Trullo. Notons seulement ici que, de même que le poisson, l'agneau, tout en étant avant tout un symbole du Christ, signifie également le chrétien en général, et souvent, surtout les apôtres. Des agneaux buvant dans les ruisseaux signifiaient les chrétiens s'abreuvant de l'eau vive de l'enseignement évangélique. Lorsqu'il y en avait deux, cela signifie l'Église des Juifs et l'Église des gentils, c'est-à-dire des païens. Étant le symbole principal du Christ, l'agneau remplaça pendant longtemps l'image directe du Seigneur, son portrait, pour ainsi dire. Même dans des scènes historiques comme la Transfiguration ou le baptême. Et non seulement le Christ lui-même, mais aussi les apôtres ou Saint Jean-Baptiste étaient représentés sous forme d'agneau. La Vierge, la Sainte Vierge, c'est la mère de Dieu, est représentée dans les catacombes au moins aussi souvent que le Christ. C'est déjà frappant. Hein. Beaucoup d'images du Christ, mais on n'a pas moins de la mère de Dieu. Mais alors que le Christ est représenté surtout par des symboles, la mère de Dieu l'est toujours directement. Autant qu'on peut en juger par ce qui a été découvert jusqu'ici. Elle apparaît dès le second siècle dans divers sujets iconographiques. Par exemple, dans l'Annonciation, évidemment, il s'agit d'elle dans l'Annonciation, dans la catacombe de Priscille à Rome, et dans la Nativité, catacombe de Saint-Sébastien, datant du IVe siècle. Souvent aussi, elle est représentée seule, en orante, c'est-à-dire les bras levés en attitude de prière. Cette dernière image souligne son rôle de médiatrice autour de Dieu pour l'Église et pour le monde. Et c'est généralement dans cette attitude qu'elle est représentée sur de nombreux fonds de vases sacrés trouvés dans les catacombes. Elle y apparaît parfois aussi, entre autres, entourée des apôtres Pierre et Paul. Parfois avec sa mère, Sainte Anne. L'une des scènes où elle joue un rôle important est évidemment l'adoration des mages. C'est très souvent représenté au 1er siècle chrétien. L'adoration des mages constituait dans l'année liturgique une fête à part, comme c'est encore le cas dans les confessions occidentales. Dans l'Église orthodoxe, elle est incluse dans la fête de la Nativité. On trouve actuellement dans les catacombes romaines 10 à 12 images de l'adoration des mages s'échelonnant du début du 2e au 4e siècle inclus. La Mère de Dieu est toujours représentée assise, tenant l'enfant sur ses genoux, en recevant avec lui l'adoration, la vénération des mages, ce qui souligne particulièrement sa dignité de mère de Dieu. Ce sujet iconographique répondait à une question extrêmement aiguë
À cette époque, celle de la place des gentils, c'est-à-dire des anciens païens, les non-juifs, dans l'Église. Maintenant, cela ne pose plus de problème, mais au premier siècle, le problème des gentils, comme on disait, des païens qui entraient dans l'Église, dans la maison d'Israël, pour laquelle le Christ était venu avant tout, revêtait beaucoup d'acuité. Il fut l'objet d'une controverse entre les apôtres même, Actes 11, 1, 4, et fut discuté au concile apostolique de Jérusalem, comme on peut le lire en Actes chapitre 15. Il jouait en général un grand rôle dans la vie des premiers chrétiens. Les images le reflètent souvent et de plusieurs façons. Les mages venus adorer le Christ, apparus sur la terre, étaient les prémices des nations, prémices de l'Église des gentils, de l'Église non-juive. C'est pourquoi les chrétiens des premiers siècles, en représentant l'adoration des mages, soulignaient la place qui revenait dans l'Église aux chrétiens non-juifs, la légitimité de leur ministère parallèle ment à celui des chrétiens d'Israël. À la suite des images directes ou symboliques du Christ et des images de la Mère de Dieu, apparaissent celles des apôtres, des prophètes, des martyrs, des anges, etc. En un mot, toute la variété de l'iconographie chrétienne. Un exemple particulièrement caractéristique et qui nous permettra de comprendre le développement ultérieur de l'art sacré et la plus ancienne représentation connue de la Vierge avec l'enfant. C'est une fresque de la catacombe de Priscille, à Rome. Une peinture encore toute hellénistique par sa forme. Pour montrer que cette femme avec un enfant est la Mère de Dieu, il a fallu recourir à des signes extérieurs. Ces signes extérieurs sont un prophète biblique à son côté et une étoile au-dessus de sa tête. Nous voyons là le même principe que dans les images de l'Eucharistie déjà mentionnées. Pour montrer que la scène représentée, banquet, consécration ou seulement le pain et le vin, signifie le sacrement central du christianisme. On ajoutait un signe extérieur, un symbole eucharistique, le poisson. Ce détail transposait le sens de l'image sur un tout autre plan, l'illuminait d'un contenu salutaire. De même, pour montrer que la femme représentée avec un enfant n'est pas une simple femme, mais la Mère de Dieu, il fallut des indications extérieures, le prophète et l'étoile. Ici, le prophète tient dans sa main gauche un rouleau ou un petit livre contenant sa prophétie et dans sa main droite montre l'étoile au-dessus de la Vierge. Est-ce Isaïe qui disait « L'Éternel sera ta lumière pour toujours ». L'étoile est en effet le symbole du ciel et de la lumière céleste. Voilà, un astre sort de Jacob, un sceptre céleste d'Israël. La Vierge a un voile sur la tête, signe des femmes mariées. Sa condition civile était en effet celle d'une femme mariée de ce voile, et ce voile constitue un trait important du réalisme historique qui est resté dans la tradition iconographique orthodoxe. C'est une image à la fois historique et symbolique. Cette alliance de vérité historique et de symbolisme est à la base de l'art sacré chrétien. Le langage pictural de l'Église, tout comme son langage dogmatique, n'avait pas encore à cette époque l'exactitude, la clarté, la précision des siècles suivants. Mais maintenant, nous pouvons reconnaître la Mère de Dieu sans qu'il soit besoin d'un prophète pour nous la désigner. Le langage artistique était en voie de formation et les fresques des catacombes illustrent bien les premiers pas de cette genèse. Mais dans l'art des catacombes, nous trouvons non seulement le principe même de l'art sacré, mais aussi dans ses traits généraux, son caractère extérieur. Comme nous l'avons dit, la science profane, son parti pris, et qui se base sur des données réelles, affirme que dans les catacombes du 1er siècle apparaît déjà un style nouveau, propre au christianisme, avec les traits essentiels qui caractérisent désormais l'art de l'Église. Cet art, répétons-le, exprime avant tout l'enseignement de l'Église et correspond au texte sacré. Son but n'est donc pas de refléter la vie quotidienne, mais de l'éclairer, la vie quotidienne. Éclairer la vie quotidienne de caractère documentaire, anecdotique ou psychologique. On cherchait en vain à se faire par cet art une idée de la vie quotidienne des chrétiens. Ainsi, à cette époque où les persécutions étaient fréquentes et les martyrs nombreux, nous n'en trouvons aucun indice dans l'art cultuel. Les artistes chrétiens qui vivaient sous Néron ou Dioclétien ont certainement dû voir les scènes atroces des amphithéâtres et des épisodes étaient un sujet de gloire et de consolation pour tous les frères. On s'attendrait donc à voir dans les catacombes des évocations de ces journées où la lutte engagée contre les chrétiens, contre les dieux païens, leurs idoles atteignait son paroxysme. Or, on ne rencontre pas une seule fois dans les catacombes une scène de martyrs. C'est quand même étonnant, pas une seule fois, aucune scène de martyr. Il en va dans les récits des grands saints de cette époque de la même façon. Saint Paul, par exemple, enseigne, dénonce les erreurs et les vices, etc., mais ne mentionne qu'en passant, sans aucune allusion à son état d'âme et en sang. Et sans aucune description, les tortures qu'il a subies. Il n'est donc pas étonnant que dans l'art, nous ne trouvons non plus rien de tel. Ce n'est que bien plus tard, lorsque les persécutions cessèrent et avaient cessé depuis longtemps, et que les supplices des chrétiens furent passés dans l'histoire, qu'on commence à représenter ces scènes. Et pourtant, cet art n'était pas retranché de la vie. Non seulement il parle le langage artistique de son époque, mais il est intimement lié avec elle. Ce lien ne consiste pas en images quotidiennes comme celle de la peinture profane, mais dans la réponse qu'il apporte aux problèmes quotidiens du chrétien. L'essentiel de cette réponse, c'est l'état de prière. Cet art communique au spectateur. De face ou de trois quarts, ces personnages ont le plus souvent une position dorante, donc une position de prière, dorante. C'est-à-dire manifeste le geste antique de la prière. Particulièrement répandu au 1er siècle chrétien, il acquiert une valeur de symbole. Nous voyons ainsi dans les catacombes romaines une multitude d'orantes qui personnifie
la prière, ou plutôt des personnes en prière, représente des personnes en prière. Cet état de prière devient le leitmotiv des situations les plus diverses et souvent dramatiques, comme le sacrifice d'Abraham ou Daniel dans la fosse au lion. Ce n'est pas tellement le moment même du sacrifice, le côté dramatique de la situation qui est représenté, c'est l'état intérieur spirituel des personnages. Autrement dit, de nouveau, la prière. Le chrétien qui devait toujours être prêt à la confession dans le supplice avait ainsi devant les yeux l'attitude intérieure qu'il fallait adopter dans toutes circonstances. On montrait ce qui pouvait instruire, fortifier et apaiser, non ce qui eût risqué de repousser et d'effrayer. Ce que de telles images transmettaient encore, c'était l'enseignement sur le salut. Isaac, sacrifié, était sauvé, de même que Noé et Daniel. Et cela indiquait leur sens préfigurateur et notre salut à nous. En plus de la prière, on représentait le travail pour montrer son caractère purificateur et pour rappeler aux chrétiens que tout travail humain doit être fait pour la gloire de Dieu. On représentait non pas tel ou tel épisode de l'activité humaine, mais l'activité comme telle des métiers, par exemple. Nous voyons ainsi une vendeuse d'herbes à son étal, un batelier embarquant ou débarquant une cargaison d'amphores, des portefeuilles déchargeant un navire, un boulanger, un vigneron, un cocher, des tonneliers au travail. Autre fait caractéristique de l'art chrétien qui se manifeste dès les premiers siècles, l'image est réduite au minimum de détails et au maximum d'expression. Le laconisme, cette sobriété dans les moyens, correspond elle aussi au caractère laconique et sobre des Saintes Écritures. L'Évangile ne consacre que quelques lignes à des événements qui décidèrent de l'histoire de l'humanité. L'image sacrée aussi nous montre seulement l'essentiel. Les détails ici et là ne sont tolérés que lorsqu'ils sont significatifs. Tous ces traits nous mènent directement à la forme classique de l'icône orthodoxe. De cette époque, le peintre devait ramener ses œuvres à une grande simplicité dont la signification profonde n'était accessible qu'à un œil initié par l'esprit. L'artiste devait épurer son art de tout élément individuel. Il restait anonyme, les œuvres ne sont jamais signées, bien sûr. Et son premier souci, comme les icônes ne sont pas signées, et son premier souci était de transmettre la tradition. Il devait à la fois renoncer à la jouissance esthétique pour elle-même et utiliser pour suggérer le monde spirituel tous les signes du monde visible. En effet, pour représenter l'invisible aux yeux de la chair, il ne faut pas un brouillard confus, mais au contraire, une grande netteté et une précision. Tout comme les pères, lorsqu'ils parlent du monde spirituel, emploient des expressions particulièrement claires et rigoureuses. Le peintre chrétien renonce à la représentation naturaliste de l'espace. Donc, il n'y a pas de fausse espace, il n'y a pas d'illusion de profondeur, etc. Très marquant dans l'art romain à cette époque, c'était évidemment justement ces trompe-l'œil et toutes ces recherches de profondeur et de perspective dont l'art naturaliste, pourrait-on dire, de cette époque romaine. Avec la profondeur disparaissent aussi les ombres. Au lieu de représenter une scène que le spectateur ne peut que regarder mais à laquelle il ne participe pas, cet art représente des personnages liés entre eux par le sens général de l'image, mais liés surtout aux fidèles qui les regardent. Ils nous sont presque toujours représentés de face. Ils s'adressent au spectateur et lui communiquent leur état intérieur, celui justement de la prière. Ce qui compte, c'est moins l'action représentée que cette communion avec le spectateur. Le symbolisme de cette époque n'est donc pas, nous le voyons, un jeu de mots plus ou moins abstrait ou arbitraire. Nous y découvrons un système d'expression cohérent et profond, pénétré dans son ensemble et dans chacun de ses détails, d'un unique message de mystère et de salut. Et ce langage a bien rempli son rôle puisqu'il a enseigné le christianisme à des milliers d'hommes et de femmes et les a formés et guidés. C'est précisément à l'aide de ce langage, maintenant à peine compréhensible pour beaucoup de gens, que recevaient leur instruction religieuse les saints de cette époque, à chaque étape de la conversion jusqu'au couronnement de leur témoignage par le martyr. Comme nous le voyons au premier siècle du christianisme, les sujets représentés étaient pour la plupart soit des purs symboles, comme le poisson, la vigne, soit des images historiques, mais servant elles-mêmes de symboles. Par exemple, la résurrection de Lazare, image de la résurrection générale à venir. La résurrection de Lazare, image de la résurrection générale à venir. Tout symbole de ce genre, en tant que forme d'expression, une fois trouvé et adopté par toute l'Église, comme par exemple le poisson, n'était plus modifié, était employé dans le monde chrétien tout entier, de l'Est jusqu'à de l'Occident jusqu'au Orient. N'était plus modifié, était employé dans le monde chrétien tout entier. Il faisait partie du langage symbolique commun, accessible et compréhensible à tout chrétien, indépendamment de sa nationalité et de sa culture. De toute la multitude des monuments de l'art chrétien primitif, nous avons pris quelques exemples. Ces exemples nous montrent des méthodes de prédication et d'initiation religieuse extrêmement développées. L'art des premiers siècles chrétiens est un art dogmatique et liturgique. C'est une véritable direction spirituelle et l'on ne peut certainement pas prendre au sérieux l'affirmation de certains savants, souvent protestants, disant que l'art sacré est né en dehors de l'Église ou que jusqu'au 3e ou 4e siècle, il n'avait aucune importance dans l'Église. Bien au contraire, cet art dénote une direction ecclésiastique générale très nette et un contrôle serré du travail des artistes, aussi étonnant que ça puisse paraître. Rien n'est laissé au hasard, ni au caprice du peintre. Tout est concentré sur l'expression de l'enseignement de l'Église. Dès ses premiers pas, l'Église commence à élaborer un langage artistique exprimant la même vérité que la parole sacrée. Nous verrons par la suite que ce langage, tout comme l'expression théologique de l'enseignement chrétien, se précisera de plus en plus au cours des circonstances historiques de son existence pour devenir l'instrument le plus parfait et le plus exact.
La beauté de cet art des premiers siècles chrétiens tient surtout aux possibilités qu'il recèle. Il ne réalise pas encore toute la plénitude de son sens, mais il promet un développement infini. Cependant, l'art des catacombes romaines ne doit pas nous faire oublier que nous avons affaire ici à une seule branche de l'art chrétien primitif, la branche gréco-romaine, qui s'est le mieux conservée. Le trait caractéristique de l'art gréco-romain de cette époque est son naturalisme, c'est-à-dire sa tendance à reproduire la nature et les objets visibles. Les exemples que nous avons montrés illustrent combien l'art chrétien se dégage de ce principe. Quant à la technique de la peinture gréco-romaine, elle était très développée et perfectionnée, et l'art chrétien en hérita. C'est pourquoi cet art des premiers siècles porte le même caractère de fraîcheur et de spontanéité qui distingue l'art antique. À côté de cette branche gréco-romaine de l'art chrétien, il en avait d'autres. Ainsi, les fresques du IIIe siècle d'une église chrétienne à Douro-Europos ont un caractère nettement oriental, dont les traits essentiels sont décrits par André Grabar, mon vénéré professeur, dans sa description d'un temple païen dans cette même ville. Espace rétréci, figure plate au contour appuyé, corps isocéphale, son volume et son poids. Les personnages qui s'avancent en tournant la tête vers les spectateurs. Bref, un art d'expression qui ne prétend pas imiter la vision optique ni donner l'illusion d'une réalité matérielle. Ces traits de l'art oriental ont été largement utilisés par le christianisme. Quelques autres monuments et certaines indications nous permettent d'affirmer que l'art sacré n'était pas moins développé dans le parti oriental de l'Empire qu'en Occident. En tout cas, lorsque Constantinople fut fondée en 330, l'art chrétien de Rome et d'Orient avait déjà une longue histoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite 2 semaines agréables et productives dans vos études. Et puis, j'espère que nous nous reverrons dans 2 semaines, ici même. Merci.